Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler politique puisque c'est la journée des écologistes à l'Assemblée nationale et que nous avons la députée de la Vienne, Lisa Belluco, avec nous. Et puis, on va parler aussi culture avec la compagnie L'Homme Debout qui est en train de préparer le carnaval. Eh bien, Lisa Belluco est avec nous. Elle vient d'arriver en studio. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette journée particulière à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a une journée par an où chaque groupe peut proposer, enfin, faire des propositions à l'Assemblée. Hein. Expliquez-nous comment ça se passe.
Exactement, c'est notre journée d'initiative parlementaire et c'est une fois par an, on a le droit de choisir l'ordre du jour, donc les textes que l'on propose au vote de nos collègues. Et donc nous, on a choisi aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui, c'est de 9h à minuit, on a choisi aujourd'hui une série de textes qui visent à protéger les Françaises et les Français.
Et alors, en quoi les textes là, que vous allez proposer peut-être ont une inspiration aussi dans ce que vous vivez sur le territoire? Il y a notamment un texte de lutte contre les polluants éternels. Et c'est vrai que sur le territoire de la Vienne, on est pas mal impacté, enfin, comme un peu partout. Mais...
En fait, il y a même deux textes aujourd'hui qui résonnent particulièrement avec ce qu'on vit dans la Vienne, mais en réalité, vous avez raison, c'est un peu dans toute la France. Le texte qui est en débat encore maintenant, alors j'ai pas eu le temps d'entendre s'il était terminé ou pas, les débats continuaient quand je suis montée dans la voiture, c'est pour interdire les fameux PFAS, vous dites comme vous voulez, les polluants éternels, d'un certain nombre d'usages. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du jour au lendemain de tout interdire. On aimerait bien, mais il y a des usages pour lesquels on ne peut pas s'en passer, par exemple pour rendre des vêtements résistants au feu pour les pompiers. Ça, on ne va pas l'interdire. Mais là, ce qu'on propose, c'est de l'interdire dans les cosmétiques, dans les textiles d'habillement, pas encore dans les ustensiles de cuisine, malheureusement. On aimerait bien progresser là-dessus. Mais ça a été... Nos collègues n'étaient pas d'accord avec cette proposition. Et dans le fart de ski, on l'interdit aussi. Et l'idée, c'est que petit à petit, on avance, qu'on trouve des solutions alternatives à ces polluants éternels et qu'on puisse traiter l'eau, traiter... Parce qu'en fait, on les appelle polluants éternels parce qu'on ne peut plus s'en débarrasser ou difficilement s'en débarrasser une fois qu'ils sont là.
Donc ils ont une durée de vie très très longue, hein, c'est ça en fait.
Ils sont très très stables. C'est d'ailleurs pour leur stabilité qu'ils sont utilisés. On les retrouve dans l'eau, on les retrouve dans nos corps. Moi, je me suis fait tester avec une dizaine d'autres députés de mon groupe en 2023. Donc j'étais enceinte de mon premier fils et j'avais des PFAS dans le corps, notamment un qui avait été interdit en 2020. Donc on est censé ne plus retrouver. Donc mon fils qui est né en 2023 avait dans le corps un PFAS interdit depuis 3 ans avant sa naissance. En fait. Donc c'est pour ça qu'on dit maintenant il faut arrêter. Et on va les retrouver malheureusement encore très très longtemps dans notre eau, comme c'est le cas dans la Vienne, mais comme c'est le cas un peu partout en France.
Et ça c'est une lutte. Alors c'est vrai qu'il y a eu des prélèvements récemment là à oui. Buxerolles où on a découvert un polluant éternel dans l'eau, hein, donc de la Vienne.
Oui, il y a eu des prélèvements citoyens, notamment accompagnés par l'association UFC Que Choisir, l'association de protection des consommateurs. L'idée, c'est de montrer que c'est partout. C'est pas de mettre en accusation Grand Poitiers qui distribue l'eau potable, l'eau de Vienne, etc. Eux, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est la pollution amont qui est problématique. Et d'ailleurs, ça va coûter très très cher en dépollution. Puisqu'il faut des filtres, des charbons actifs, enfin, faut mettre en place un certain nombre de dispositifs pour dépolluer l'eau. Et c'est un coût qui pèse sur les collectivités, alors que ce sont des entreprises qui polluent. Donc ce qu'il y a aussi dans notre texte, c'est de dire on applique le principe pollueur-payeur, et donc on augmente la redevance pour pollution de l'eau des entreprises qui émettent ces polluants éternels.
Et c'est aussi un débat qui a lieu au niveau européen, parce qu'il y a aussi plusieurs associations qui se mobilisent au niveau européen.
Alors ça a lieu au niveau européen, et puis il y a des pays qui ont déjà avancé sur le sujet, par exemple le Danemark, qui depuis 2020 interdit les emballages avec des PFAS. Donc en fait, il y a plusieurs pays européens qui s'y mettent, et petit à petit, l'idée, évidemment, on est plus efficace quand on a une législation, une réglementation au niveau européen, ce qu'on pèse plus, y compris dans notre dialogue avec l'industrie. Donc l'idée, c'est que des pays soient précurseurs, comme la France, le Danemark. On serait d'ailleurs le pays le plus ambitieux en la matière si notre texte était voté, ou s'il est voté là. On était tout au bout quand je suis arrivée. Et l'idée, c'est que l'Europe puisse s'inspirer des bonnes initiatives des pays.
Et est-ce que justement, là, que donnaient les débats ce matin? Est-ce qu'il y a une chance que la France franchisse ce pas, sachant que l'Assemblée nationale est très fragmentée actuellement.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce texte, il a déjà été voté une fois l'année dernière à l'Assemblée nationale, en étant un peu modifié. C'est à ce moment-là qu'ont été retirées les interdictions pour les ustensiles de cuisine, par exemple. Et puis, il a été voté une fois au Sénat, en étant un peu modifié aussi. Donc là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'il soit voté à l'Assemblée nationale. Ça, ça va arriver, mais qu'il soit voté sans être modifié par rapport à la version du Sénat. Pour l'instant, aucun amendement n'a... Enfin, jusqu'à ce que je rentre dans cette pièce, aucun amendement n'avait été adopté. Donc, on était sur la bonne voie. Et s'il est adopté dans une forme identique à celle qui a été votée au Sénat, alors il sera définitivement adopté. Il n'y aura plus qu'à le promulguer et on sera des champions en la matière.
Et alors, on croise les doigts, effectivement, c'est en train d'être voté. Il y a d'autres sujets que vous mettez sur la table. La sécurité sociale de l'alimentation, notamment, en quoi ça consiste?
En fait, on dit que l'alimentation et le fait de bien s'alimenter avec de la nourriture de qualité, c'est un droit. On a le droit, chaque Française, chaque Français, chaque habitant de notre pays a le droit d'avoir accès à une alimentation de qualité. Donc ce qu'on propose, c'est un dispositif qui est universel, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les revenus des gens, la situation sociale, la situation maritale, etc. C'est universel, tout le monde a une sorte de comme une carte vitale de l'alimentation qui est créditée chaque mois de 150 €. Et qui peut être. Cet argent ne peut être dépensé que dans des endroits qui ont été définis collectivement par des caisses citoyennes de l'alimentation, qui sont dans les territoires. Et il y a déjà une quarantaine d'expérimentations en France, il y a déjà une quarantaine de caisses de sécurité alimentaire qui font ce travail et qui essayent de. Enfin, qui nous ont aidés à formuler cette proposition d'ailleurs en expérimentant sur le terrain.
Et
l'idée, c'est d'avoir, du coup, d'améliorer les revenus des agriculteurs, d'avoir accès à de l'alimentation plutôt locale, plutôt issue de l'agriculture biologique ou avec des niveaux de qualité élevés. Et le but est d'accompagner la transition de l'agriculture tout en accompagnant une meilleure alimentation pour tout le monde.
Sachant qu'il y a aussi un projet d'alimentation sur le territoire aussi de Grand Poitiers. Donc ça fait résonance aussi avec ces projets-là.
Mais là, c'est pas. Alors, ce que fait Grand Poitiers, c'est de vraiment. Enfin, la ville de Poitiers et Grand Poitiers, ils travaillent à l'amélioration de de la qualité de leurs achats, si je puis dire. Et on l'a vu il y a pas longtemps, la ville de Poitiers a repassé ses marchés pour la restauration collective en améliorant considérablement la part de produits issus de l'agriculture biologique, par exemple. Et ça, ça se fait en lien avec le projet alimentaire territorial, effectivement, porté par Grand Poitiers, en lien avec les producteurs du territoire. Et l'idée, c'est que tout ça fonctionne ensemble, qu'on aide les producteurs de notre territoire qui travaillent bien, qui maintiennent la biodiversité, qui maintiennent une alimentation de qualité, qu'on les paye suffisamment pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font. Et de l'autre côté, de servir une nourriture de meilleure qualité, ou de bonne qualité, en tout cas, dans la restauration collective.
Mais là, c'est plutôt une dimension sociale que vous défendez avec cette sécurité sociale de l'alimentation. Quels seraient les principaux défis à relever pour que ça puisse exister?
Déjà, voter le texte aujourd'hui, ça serait un premier défi. Il y a un enjeu de financement, donc il faut évidemment voir si c'est une cotisation. On part sur l'idée d'une cotisation, c'est une cotisation salariale ou patronale, mais c'est... On s'inspire, c'est pour ça que ça s'appelle une sécurité sociale, hein, on s'inspire du système de la sécurité sociale. Et puis, il y a un enjeu d'engagement, puisque l'idée, c'est d'avoir des caisses territoriales, comme on a nos CPAM, mais qui soient animées par des citoyennes et des citoyens auxquels on redonne le pouvoir de choisir leur propre alimentation ou de choisir comment ils dépensent l'argent pour s'alimenter.
Alors, il y a pas mal de sujets hein, que vous mettez sur la table. Il y en a un qui risque d'être compliqué au vu de l'Assemblée aujourd'hui, c'est l'accès au travail pour les demandeurs d'asile. Ça, j'imagine...
Vu le temps qui nous est imparti, c'est pas sûr qu'on arrive jusqu'à l'examen de ce texte. Mais oui, l'idée, c'était vraiment de dire, aujourd'hui, quand on est demandeur d'asile, il y a un délai de 6 mois, quand on arrive en France, pendant lequel on n'a pas le droit de travailler. Donc on se retrouve dans une situation de précarité contrainte. Et même on peut avoir toute la bonne volonté du monde, vouloir travailler, avoir trouvé un employeur, on n'a pas le droit. Donc soit on est poussé à l'illégalité quand on est demandeur d'asile, soit on est poussé dans la précarité. Et on sait que plus le temps resté sans travail est long, plus il est difficile de retrouver après du travail ou de se réinsérer dans le monde du travail. Donc nous, ce qu'on propose d'asile, hein, donc ce sont des gens qui fuient leur pays à cause de la guerre, à cause de conflits politiques, à cause de... C'est des gens qui...
C'est un statut très particulier et encadré. Ouais.
Et bon, l'idée, c'est que souvent, il y a des recours, il y a un temps de traitement du dossier. Et l'idée, c'était de dire, pendant les 6 mois, tant que le dossier n'est pas traité, les gens ne peuvent pas travailler. Sauf que ça les met vraiment dans une grande précarité. Donc nous, on propose de supprimer ce délai. Ça a été voté en commission. Donc on pense qu'il y a moyen d'avancer là-dessus. Il y a des députés du Bloc central qui étaient prêts à avancer là-dessus. Donc tout n'est pas perdu et on continuera le combat sur ce sujet aussi.
Et quels sont, à votre avis, les autres sujets là, qui vont pouvoir être abordés et qui peut-être auraient une chance de passer dans cette journée des écologistes?
Alors après la sécurité sociale de l'alimentation, on a un texte sur la protection des captages d'eau potable qui concerne aussi, qui résonne particulièrement avec notre département. L'idée, c'est de dire que aujourd'hui, il y a déjà des aires de protection des captages d'eau potable qui sont définies par les préfets. Et dans ces aires de protection, on n'a pas le droit de tout faire. On n'a pas le droit de faire un certain nombre d'activités, ou en tout cas, on doit faire attention de ne pas atteindre la nappe, polluer la nappe. Mais aujourd'hui, on a le droit d'utiliser des pesticides, par exemple. Notre texte dit on fait une application plus stricte, et finalement, on simplifie l'administration ou le droit dans les aires de protection de captage, plus de pesticides, tout simplement. On ne regarde pas au cas par cas, peut-être, je ne sais pas, en fonction des pratiques, c'est juste. Là, on fait de l'agriculture biologique pour, en amont, limiter au maximum le risque de pollution de l'eau qu'on boit, in fine.
Merci beaucoup, Lisa Bellucourt, donc députée de la Vienne, d'être venue nous présenter cette journée des écologistes à l'Assemblée nationale. Vous pouvez le suivre, hein, bien sûr, en direct pour savoir si ces textes, différents textes vont passer. Merci d'être venue dans Séquence Midi.
Merci.
On continue en musique avec Alun Wade et ce titre « Watermelon Man ».
Thank you. Pulsar.
Radio curieuse et citoyenne.
Et on accueille maintenant Benoît Moussourian de la compagnie L'Homme Debout. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler de la fabrique du carnaval que vous avez ouvert il y a quelques mois déjà à Saint-Éloi, à la Maison Sève. Alors racontez-nous comment est né le projet déjà au départ.
Le projet, il est né de... nous, on est une compagnie qui est implantée sur Poitiers depuis 13 ans et on avait envie de s'installer dans un quartier de Poitiers pour une durée assez longue. Donc, en l'occurrence, c'est 2 ans. On est allé voir la ville de Poitiers avec cette envie-là et on s'est mis d'accord ensemble sur un quartier, donc Saint-Éloi, avec le préalable qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire dans ce quartier-là. Et donc moi j'ai trouvé ça super que la ville nous fasse confiance et parce que notre idée c'était de se dire on part des envies des gens, donc on est passé par plusieurs moments de rencontres, de discussions. Moi je suis allé marcher avec des gens pendant 1 heure, j'emmenais les gens marcher, ils me racontaient le quartier et revenaient c'est quoi vos envies, tout ça. Et le carnaval est venu à plusieurs reprises parce que il y a des communautés guyanaises, antillaises, réunionnaises pour qui c'est une fête qui
résonne. Oui, c'est des moments forts là-bas,
exactement,
le carnaval.
Exactement. Et puis, il y avait déjà eu des histoires de carnaval dans le quartier, que le Covid avait un peu ralenti, tout ça. Donc voilà, on est parti sur cette idée. On se lance dans un carnaval dans le quartier.
Et alors, comment ça s'est mis en place concrètement au départ?
Nous, on a un truc qu'on sait bien faire, c'est construire des choses avec les gens. C'est vraiment notre ADN. Donc, on s'est dit, on va monter une fabrique du carnaval dans la maison de quartier Sève, qui est installée à Saint-Éloi. Et on invite les gens à venir librement construire des trucs avec nous. Mais aussi, du coup, quand on construit, on peut discuter, parce que c'est des constructions simples, c'est des gestes simples. Donc, on discute, quelle recette de cuisine on pourrait faire, quelle danse, quelle musique, etc., etc. Donc, c'est toute l'idée de cette fabrique, c'est que ça soit comme ça une espèce de joyeuse pagaille où tout le monde peut venir à la fois fabriquer, mais des fois juste boire un verre ou discuter ou tout ça. Donc, elle est ouverte depuis le mois de début novembre et tous les jeudis, vendredis, samedi, dimanche après-midi, on est là-bas et donc on invite les gens à venir. Donc c'est super, c'est pas évident, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit tiens c'est ouvert que tout le monde vient, c'est pas vrai. Saint-Éloi c'est un quartier particulier, c'est je crois le dernier quartier à Poitiers qui est né, quoi, qui est sorti de terre. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un ou une urbaniste qui ait réfléchi à l'histoire. J'ai l'impression que tout ça a poussé comme ça de maison en maison en maison. Du coup ça fait que c'est un quartier où il n'y a pas de centre attractif, je sais pas comment on peut dire, mais en gros au cœur du quartier il y a une petite supérette et puis c'est tout. La maison de quartier est la plus jeune de Poitiers, je crois, et je crois que ça fait juste 10 ans qu'elle est là. Donc tout le projet est encore à construire, à mener. Donc voilà, du coup, les gens ne sortent pas comme ça de manière évidente pour venir faire un carnaval avec des guignols là, qui arrivent d'une compagnie et qui débarquent on ne sait où pour eux. Donc voilà, donc ça prend du temps et c'est toute l'idée de ce projet en fait, c'est de se dire pour monter des projets comme ça, en fait, ça ne se fait pas en 15 jours, ça ne se fait même pas. Donc c'est bien parce qu'on a 2 ans. Donc là, c'est ce qui est chouette, c'est qu'on a mobilisé toutes les écoles du quartier, toutes les classes sont venues fabriquer, faire des choses, visiter, discuter. Il y a le lycée Kyoto qui est installé dans le quartier, qui est énormément mobilisé sur l'organisation de ce carnaval. Il y a même une classe de BTS de ce lycée qui organise le carnaval avec nous. Il y a le lycée Saint-Jacques de Compostelle qui est également impliqué. Et puis tous les secteurs de la maison de quartier, depuis la prévention, mais évidemment l'animation, centre de loisirs, tout ça, mais le secteur famille, etc., etc., etc.
C'est ça, c'est qu'il y a la compagnie, mais il y a aussi tout autour la maison de quartier et les habitants eux-mêmes qui finalement s'impliquent et organisent cette fabrique.
Voilà, c'est l'idée. Nous, on est là-bas 2 ans, en fait. C'est le préalable. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que la troisième année, il y ait des gens qui ont envie de continuer, en fait, parce que je sens qu'il y a vraiment un truc. Il y a vraiment des gens qui ont envie. Donc nous, notre idée, c'est de se dire on impulse un truc, on donne des idées, peut-être des petites clés, des machins, et puis pour que l'histoire, ça ne soit pas juste nous qui arrivons, qui faisons un peu notre truc, et puis on repart et ça n'existe plus. Donc c'est pour ça qu'on qu'on travaille en étroite collaboration avec les maisons de quartier, mais pas seulement, avec le comité de quartier, avec une association qui s'appelle Pictanim, qui est installée sur le quartier, mais avec aussi les gens qui s'occupent du logement social, dont je ne me rappelle jamais le nom, etc. Et donc, régulièrement, on réunit cet ensemble de partenaires, c'est une 20-30 personnes avec qui on rediscute de c'est quoi ce carnaval, comment il s'organise, comment on communique, comment... Donc, il y a une médiathèque qui est très impliquée, il y a une maison de retraite qui est juste en face de la maison de quartier, donc les gens se déplacent, même le carnaval va traverser la maison de retraite, le défilé du carnaval, donc ça c'est super. Et donc voilà, c'est d'essayer de créer un truc qui bouge, quoi, qui donne. Quand on discute avec les gens, ça veut vraiment rien dire, mais les discussions que j'ai eues avec les quelques personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des adolescents, des gens plus âgés, des adultes, eh ben, il y avait toujours cette truc de « waouh, il n'y a pas grand-chose à faire dans le quartier. Si on veut faire quelque chose, on sort du quartier. Il y a des équipements sportifs, mais il y en a un qui sert au PB 86, donc le gymnase, il n'est pas utilisable par les gens du quartier. Et puis, il y a des terrains de foot qui sont pour le club de foot des Couronneries, donc les gamins, ils n'ont pas le droit d'y aller non plus. » Du coup, voilà, il y a un truc comme ça...
Il manque une vie de quartier. Que vous avez eu. Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé finalement avec toutes ces discussions? À quoi va ressembler le carnaval cette année?
Alors, c'est un carnaval qui va s'étendre, donc c'est le 21 mars, qui va commencer à 14h, qui va se terminer vers minuit, on espère, s'il y a plein de gens et que l'ambiance est bonne. Et voilà, il y a une grosse implication des écoles, comme je vous le disais, il y a deux écoles dans le quartier, Pablo Neruda et Micromégas. Et donc, forcément, il fallait faire le carnaval des écoles, c'était très important. Donc, ça commence à 14h par un carnaval des écoles, avec un défilé des enfants dans le quartier pour arriver sur la pelouse centrale, on va dire, du quartier. Là, on organise une boum pour les enfants. Et donc, c'est super. Le défilé repart après la boum, traverse cette fameuse maison de retraite avec tous les enfants. Et là, s'ouvre, donc à la sortie de l'école, s'ouvre un village carnaval. Avec, là, c'est vraiment la maison de quartier qui est très, très impliquée dans l'organisation de ce village carnaval, avec plein d'animations, plein de choses à faire. Nous, on délocalise notre fabrique du carnaval ce jour-là pour continuer à construire des choses. Les gens peuvent venir construire leurs masques s'ils le souhaitent. Et fabrique du carnaval, donc ça fait de 16h à 18h, village carnaval, de 16h à 18h, donc avec plein d'animations. Et puis à 18h, rendez-vous devant la maison de quartier pour un départ d'un grand défilé, le grand défilé de la soirée, donc qui va faire le tour du quartier, un défilé assez long, parce qu'on s'est dit que le défilé, ça faisait partie de la grammaire carnaval, et donc c'est pas juste d'aller d'un point A à un point B, c'est vraiment d'aller aussi récupérer des gens sur le parcours et leur dire, voilà, ce jour-là, il se passe quelque chose. Et puis tout ça nous emmène à un endroit qu'on appelle communément le bassin d'orage, donc qui se situe vraiment au cœur du quartier, historique, on pourrait dire. Et là, c'est la fête, quoi. Nous, dans nos cordes, on a le travail de la pyrotechnie, des feux d'artifice. Donc, du coup, on va faire ça. Il y a un grand feu qui va s'allumer. On va faire à manger. Mais tout ça, c'est avec les gens, avec les bonnes volontés du quartier, quoi. Il y a de la musique, évidemment. Il y a un atelier DJing qui, en ce moment, quelqu'un de chez nous mène un atelier DJing au sein de la maison de quartier, mais aussi avec des jeunes du lycée Kyoto, enfin des étudiants du lycée Kyoto. Donc voilà, ça va être une soirée partagée comme ça avec plusieurs DJ.
Et est-ce qu'il y a un peu une thématique? C'est vrai que dans les Antilles, des fois, il y a des thématiques au carnaval. Je ne sais pas s'il y en a une cette année.
Alors nous, on est parti au début, en fait, notre première envie, c'était de construire des masques. Moi, je trouve qu'il y a un truc super avec le masque dans le carnaval. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, évidemment, le symbole du carnaval. C'est-à-dire, le jour du carnaval, on peut mettre un masque et du coup, être quelqu'un d'autre. Et il y a plein de gens qui nous ont raconté plein d'histoires là-dessus, où les vieilles dames qui mettent un masque et qui dansent comme des folles dans je ne sais plus quel endroit. Et voilà, ce jour-là, on peut faire plein de trucs. Et moi, j'aime beaucoup ça. Du coup, on est parti, on s'est dit, on va construire des masques géants. C'est un peu notre truc de faire des trucs un peu grands. Donc, en osier, on construit des masques géants, tout ça, qu'on recouvre de plein de tissus. Et puis après, en fait, de ces masques sont venus des plus petits masques que chacun pouvait mettre, notamment avec les maternelles, avec les enfants des écoles. Chaque enfant a construit son masque au sein de la fabrique et tout ça. Du coup, on s'est dit, en fait, le thème, tout simplement, c'est le masque. Donc, le carnaval s'appelle cette année « Haut les masques ». C'est pas « Bas les masques », mais c'est « Haut les masques ». C'est « Mettons notre masque », alors « O-H ». Et voilà, et faisons la fête avec les masques.
Donc chacun pourra devenir quelqu'un d'autre. Comment vous avez ressenti là ces mois de travail avec les gens du quartier, enfin de construction collaborative?
Ben, alors, il n'y a pas que moi qui ai ressenti ça, parce que donc on est toute une équipe, évidemment, pour se partager toute cette période. Alors, mes camarades en parleraient mieux que moi. Moi, ce que le sentiment que j'ai, c'est une chose qui se construit, en fait. C'est-à-dire, on part de zéro. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et avec vraiment la maison de quartier qui est à fond partie prenante, eh ben, on a mis petite pierre après petite pierre, et un premier groupe qui vient, et un autre. Et en fait, il y a l'engouement, et donc tout le monde vient. Et les week-ends, ben, on a passé les premiers week-ends, il n'y avait vraiment pas grand monde. Et puis tout doucement, il y a de plus en plus de gens. Et c'est pour ça que c'est super d'être là 2 ans. C'est qu'on va dire, tiens, ben voilà, on a fait ça cette année. Et j'espère que ça va donner envie aux gens de participer en plus grand nombre encore l'année prochaine. Mais déjà, quand je vois les gens, tout l'ensemble des partenaires autour de la table, à chaque fois qu'on discute, je me dis, bah, déjà, c'est super en fait d'avoir... Il y a un truc, quoi. Donc maintenant, il faut le formaliser, il faut transformer le truc, quoi.
Donc, c'est encore possible de vous rejoindre et ce, pendant encore 1 an et demi, du coup.
Alors, c'est, du coup, là, on va viser déjà le 21 mars. Mmh. Donc là, pour le 21 mars prochain, c'est encore possible à fond de nous rejoindre. C'est même la dernière ligne droite, donc il reste 1 mois. Donc, tous les jeudis, vendredis, samedi, dimanche après-midi, vous pouvez venir à la maison de quartier Sèvres et vous serez bien accueillis. Et il y a plein de choses à faire, ne serait-ce que de construire votre propre masque.
Votre propre masque ou participer à ces masques grandioses qui défileront donc le 21 mars.
Exactement.
Merci beaucoup Benoît Moussourian d'être venu nous parler de cette belle initiative dans le quartier Saint-Éloi. Merci bien.
Merci à vous.
Et tout de suite, c'est l'heure... Ah oui, d'abord, le Café de la Presse. Demain, on parlera culture et la grogne, effectivement, avec nos confrères de la presse locale. Mais tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Avec Poitiers décolonisé, les musées, c'est à 14h. Projection du film Restituer l'Afrique en quête de ses chefs-d'œuvre de Nora Philippe, suivi d'un échange avec Françoise Vergès, politologue et historienne, autour de son livre Programme de désordre absolu, décoloniser le musée. C'est à la médiathèque François Mitterrand. Dans le cadre du festival Film et le Travail, table ronde avec le monde diplomatique, donc avec les amis du monde diplomatique, ça s'appelle Au boulot, c'est à 18h, là aussi à la médiathèque François Mitterrand, et l'entrée est libre. Et puis aujourd'hui et demain, le Conservatoire de Grand Poitiers vous propose des soirées chorégraphiques. C'est donc à 20h au centre d'animation de Beaulieu. Et puis aujourd'hui débutent aussi des ateliers participatifs pour construire des futures politiques publiques dans le cadre de la démarche Ville Amie des Aînés. Renseignez-vous auprès de la ville de Poitiers. C'est des ateliers à destination des personnes âgées et de leurs aidants pour évoquer la construction des futures politiques publiques. Sur Pulsar, à 17h, c'est À ta santé. On va parler cécité et adaptation ou non de notre société. À 18h, c'est le Labo des Savoirs. À 19h, c'est Poitou Pop. Et à 20h, Metal Fury. Merci Yann pour la réalisation technique. On se quitte avec Mama Sound System et ce titre, Never Give Up. Bon après-midi.